avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Goûts et de Luxe avec mon complice de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et ce week-end, nous vous faisons découvrir le design vintage. Du 17 au 20 novembre prochain, Porte de Versailles, à Paris, tout ce qui se fait de mieux en matière de design contemporain et de design vintage se retrouvera pour les puces du design. Ils sont galeristes, éditeurs, créateurs, collectionneurs. Ils seront tous là-bas, donc mais d'ores et déjà, quelques-uns sont aujourd'hui sur le plateau de Good Luxe. Nous vous présenterons le designer artisan Maximum, la galerie online Touch of Design, l'éditeur de design Moustache, et tout ceci sous la houlette de 55 Design Studio, qui a repris la scénographie et la direction artistique des puces du design. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et pour les nouveautés de la semaine, nous accueillons d'abord notre cher Sandy Prenois pour Wake de Luxe. Bonjour,
bonjour
Sandy, vous nous tiendrez au courant de l'actualité du web et du luxe dans quelques secondes. Et Emmanuel, on commence traditionnellement par la table de la semaine. Et où vous êtes offert un palace.
Un palace, certainement l'un des plus discrets, pas très très vieux, c'est la Réserve. Vous savez, la Réserve se situe dans le 8e arrondissement, pas très loin de l'Elysée, 42 avenue Gabriel. Un palace qui a commencé doucement, justement, dans l'intimité et qui monte en puissance saison après saison, non seulement parce qu'il est justement très discret dans ses atours, dans ses beaux draps. Il a un restaurant, il avait un premier restaurant qui marche très très bien, il s'appelle le Gabriel, il tape aujourd'hui les deux étoiles Michelin. Il leur manquait une deuxième adresse. La voilà enfin. Et alors, ce qui se passe, c'est que ce qui se passe un petit peu dans tous les grands palaces parisiens, bizarrement, ce restaurant est sous influence asiatique. Alors pourquoi, comment, je vais pas vous faire un dessin. Peut-être que la clientèle aime cette cuisine certainement disponible, et puis qu'il y a encore quelques clients qui viennent de l'Asie,
donc
ils vont bien
les
servir. Alors ça s'appelle la pagode de Kos. Pourquoi de Kos? Parce qu'en fait, c'est une confrontation entre notre univers, notre ici, et le là-bas. Kos, c'est le château de Kos des Tournelles, l'un des plus beaux domaines du vignoble bordelais, parce que la carte, elle, des vins et la sommellerie est bien évidemment très française. Ensuite, le chef Jérôme Bancel,
qui a déjà des étoiles. Juste une petite parenthèse, Kos des Tournelles, qui appartient au même propriétaire, c'est le même propriétaire que la Réserve.
Bien sûr, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Exactement. Donc, il s'amuse comme ça à la confrontation entre une sommellerie très française et puis une cuisine qui est une cuisine signée Jérôme Bancel, le chef du Gabriel, donc une cuisine à matrice, j'allais dire occidentale, française, mais qui va aller sur la route des épices du côté de l'Asie. Alors, bien sûr, le Japon, bien sûr, la Chine, bien sûr, le Vietnam, mais par-delà aussi l'Inde. Et c'est assez intéressant en ce moment, c'est la saison des noix de Saint-Jacques, belle Saint-Jacques, travailler sur une soupe épicée et citronnelle, des dîmes soupe aux légumes. Alors, ils sont pas totalement asiatiques. On sent la petite touche parisienne, française, mais ça leur donne une gourmandise que peut-être on trouve pas toujours en Asie, un peu différente en tout cas. Un bœuf travaillé aussi en émincé. Bon, beaucoup de travail de découpe, beaucoup de travail d'épices. Tout ça dans un décor qui joue plutôt les grands salons, le grand genre. On est dans un, ce qui était de l'ancien grand salon. C'est assez étonnant, cette confrontation-là, mais ça fonctionne bien.
La pagode de Kos à la Réserve, 42 avenue Gabriel, la Réserve qui vient d'être connue palace. Donc,
ah, c'est pour ça que j'en justement, parlais, bon. Enfin palace.
Enfin,
et c'est mérité.
Allez, les fêtes de fin d'année, bah, ça approche. Hein. Alors, des nouveaux concepts store pour préparer les petits cadeaux en tout genre. La Fabrique du Père Noël, elle porte bien son nom. C'est éphémère, au cœur du Marais, c'est jusqu'au 31 janvier 2017. C'est la fine équipe, un label de jeunes créateurs mode et design qui a créé ça, son pop-up store collaboratif. Il y a également un petit café, c'est Happn qui fait ça. Happn, c'est un site de rencontre, vous connaissez sans doute cela, Sandy. Et donc, tout ce petit concept sort, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, un Père Noël urbain, trendsetter et ultra connecté, mais encore Aerobatics, une marque française de prêt-à-porter pour hommes qui s'inspire des codes aéronautiques. Ou encore Jouche, une marque française qui revisite les classiques de la chaussure. Acteur, là, c'est une marque nantaise de maroquinerie. Ou encore Samo Galerie, c'est une galerie d'art qui utilise en fait des œuvres d'art qu'il met sur des bougies, des textiles, des carnets, etc., etc. Très rapidement, le deuxième concept store, il s'appelle Uper, U-P-E-R, c'est dédié là aussi aux jeunes créateurs, 19 rue des Deux Ponts, là on est au cœur de l'île Saint-Louis, dans le 4e arrondissement de Paris, et c'est une jeune femme passionnée d'art, d'architecture et de mode, Jacqueline Huon, qui est allée chiner tout ça à travers la France. C'est vraiment un laboratoire qui permet de tester les créations auprès du public parisien. Donc vous avez là aussi beaucoup de marques de maroquinerie comme Colvé, comme Loie Sauvage, mais vous avez aussi plantes et parfums. Là, on parle de cosmétiques et de parfums, comme son nom l'indique, ou encore une ligne de vêtements, attention, destinée uniquement aux chiens de petite taille, aux chiens de petite taille, ai-je bien dit, ça s'appelle Mangui. Voilà, tout ça, c'est chez Huppert. Comme je vous le disais, il y en a pour tous les goûts. Web de luxe.
Goût de luxe Paris, l'édition du week-end. Web de luxe.
Sandy Pronoa.
Bonjour. Est-ce que je propose que je ne vais pas sur le site de rencontre comme ça? Que va dire mon amour?
Non, mais parce que je parlais du web, parce que c'est un site de rencontre sur le web, c'est pour ça. Allez, parlez-nous de Simone.
Voilà, là j'y vais, voir Simone. En fait, c'est un service de beauté qui nous est entièrement consacré 7 jours sur 7, de 7h30 à 22h30. On s'occupe de nos ongles, d'une éventuelle coupe-coiffure, du maquillage. Il y a même une petite photo légendée sur Instagram, en fait. Je ne le dis pas, mais je l'ai découvert sur Instagram avec des photos qui donnent vraiment envie de se faire dorloter. Il légendait donc session massage au bureau avec coach, ceci, cela. Donc ça donne envie. Voilà, l'équipe se déplace à Paris et alentour. Ceci dit, il est bien précisé, Lyon, Bordeaux, Londres, Shanghai. Si vous aimeriez recevoir Simone chez vous, dites-le lui. Alors j'ai envie de dire, on n'hésite pas, on fonce. Le tarif de chaque prestation est donné sur une page web dédiée. Ça s'appelle simoneapp.com. On peut réserver uniquement via ce site, via et aussi par carte bancaire et via l'application Simone Beauty App uniquement.
Donc tout ça pour se faire plus belle.
Et pour prendre soin de soi.
Très bien. Les crafters, ils font quoi, eux?
Les crafters, c'est un père et un fils. C'est une nouvelle boîte qui propose des souliers masculins. Il y a tout plein de sortes de souliers. Il y a des derbies, des mocassins, des boots, enfin, que sais-je. Aussi. Il y a vraiment de tout. En très beau, très belle matière. Ce sont des cuirs qui sont confectionnés dans une tannerie implantée à Clermont-Ferrand. Il y a du cuir de veau, lama, autruche, crocodile, enfin, beaucoup de choses comme ça. Et surtout, ce qui est assez bien, c'est qu'on a des tailles très, très larges, du 39 au 52.
Waouh.
Ouais, comme vous dites. Ce qui permet véritablement aux clients grand-pieds de pas forcément passer par le sur-mesure pour pouvoir se chausser. Donc, c'est plutôt pas mal. L'achat se fait via l'e-shop uniquement. Ils ont envie de créer un showroom où il y aura aussi une proposition de personnalisation d'ici peu de temps. La petite maroquinerie, ceinture, porte-carte, la livraison à l'international, pour le moment il n'y a qu'en Europe. Voilà, que sais-je, à découvrir les crafters. Hein, ça
les
s'appelle.
Crafters, et si vous nous en parlez, vous, c'est parce que c'est uniquement sur le web pour l'instant, uniquement en e-boutique, en attendant la suite. Emmanuel, on n'a pas le temps pour votre boutique à vous, mais j'ai un cadeau pour me faire pardonner. C'est l'objet de la semaine, la barbière de Paris, vous vous en souvenez. On l'avait reçue ici même il y a quelques temps. Elle s'appelle Sarah Danielle Amizi. C'est la première femme qui a été barbière, et notamment à Paris. Elle a créé son propre salon. Elle en a deux maintenant, rue Bertin-Poiré dans le premier, rue Condorcet dans le 9e. Et elle lance sa première gamme de soins pour hommes, pour vous, messieurs, pour la barbe et pour les cheveux. Il y en a 5 en
tout. Je comprends,
il a fallu un an et demi de travail. Et ce sont vraiment des produits spécifiques. Elle fait pas les choses à moitié, elle a vraiment réfléchi à la chose. Donc on est sur un packaging très soft, noir et blanc, très clair, parce qu'il faut que ce soit clair pour vous. Et on est sur des produits qu'elle utilise elle-même dans ses salons. Huile de ricin vierge biologique, huile de noyau d'abricot, beurre de karité, cire d'abeille blanche. Et alors là, on voyage de l'huile de crâne d'Abyssinie. C'est une plante herbacée, j'ai regardé. Enfin bref, donc... Qu'est-ce qu'il y a? La barbe mousse pour le quotidien. Là, ça, c'est le shampoing. Il y a un petit masque aussi. Ça, c'est la cire pour les cheveux. Et ça, c'est le masque.
Très bien.
Vous voyez, pour vous, pour la barbe, hein.
Ça s'entretient.
On vous rappelle que sinon vous allez la voir, Sarah Danielle Amizi, cette barbière de Paris. C'est elle quand même qui vous fait du rasage à la vapeur, qui maquille et brush votre barbe, qui fait des extensions de barbe. Enfin, c'est le must.
Des extensions de barbe?
Eh ouais. Ah.
C'est pour ceux qui n'ont pas de barbe.
C'est ça, ceux qui sont un petit peu légers. En tout cas, très beaux produits. Ça s'appelle tout simplement la barbière de Paris. Voilà. Et c'est à trouver dans ces boutiques.
Ben, merci du cadeau. Hein.
Ouais, je vous laisse là. Hein, ouais, après. Oui. Merci infiniment, Sandy Pronoa. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Quant à nous, le luxe de la semaine, c'est non pas de passer chez le barbier. Tiens, d'ailleurs, il faudra y penser, un de ces quatre.
Oui. Non,
nous, on va s'arrêter aux puces du design en avant-première.
Goût de luxe Paris, l'édition du week-end, le luxe de la semaine.
Et le luxe de la semaine se passe aux puces du design. Ce sera du 17 au 20 novembre, ce sera Porte de Versailles pour cette 35e édition. Alors bien sûr, on change de lieu parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui changent pour ces puces du design. On va voir tout ça avec nos invités. Jean-Sébastien Blanc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de création de 5-5 Design Studio. Et vous êtes désormais aux manettes, en tout cas pour la direction artistique de ces puces du design. Vous nous raconterez ce que ça change dans un instant. Il y a plein de choses nouvelles. Notamment, à côté de vous, il y a Basile de Gaulle. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes designer artisan fondateur de Maximum et vous faites partie de ces designer makers que l'on va découvrir aux puces du design. Nous sommes également en compagnie de Pascal Guérin. Bonjour.
Bonjour.
Fondatrice de la galerie online A Touch of Design. Vous, c'est pas nouveau, vous y étiez déjà depuis quelques temps. Hein.
Oui, ça fait ma troisième année.
Eh ouais, c'est ça, c'est logique. Quand on vend du design vintage,
quand on y retourne.
On est au plus du design. Stéphane Arriou-Berger, bonjour.
Bonjour.
Fondateur de l'éditeur de design Moustache. Ça, c'est du design contemporain.
Absolument.
Forcément. Mais ça a quand même place aux puces du design. Vous allez nous dire pourquoi, Jean-Sébastien Blanc. On rappelle, les puces du design, l'idée de départ, c'est quoi?
Ben, l'idée de départ, c'est d'offrir des meubles d'époque à travers des marchands qui viennent proposer au grand public des pièces d'exception, des pièces uniques, des pièces qu'on trouve nulle part ailleurs.
Premier marché européen du design d'après-guerre.
Exactement.
Parce que les galeries viennent de toute l'Europe. Hein. Là, aujourd'hui, c'est on est un peu franco-français, mais oui. L'idée, c'est ça.
C'est ça. C'est devenu un rendez-vous incontournable de la profession. Et forcément, chaque galerie, chaque marchand est spécialisé dans un domaine, défend un type de designer, de son pays ou pas. Et c'est l'endroit vraiment qui rassemble... vraiment toutes ces facettes du design. Et donc, voilà, vous êtes, c'est le cœur du salon, c'est le design vintage avant tout.
Alors, justement, on va tout de suite s'arrêter sur le design vintage, et puis après, on va voir avec vous ce qui a changé.
J'espère que ça se passe porte de Versailles, ça, c'est un peu nouveau.
Le design vintage, du coup, Pascal Guérin, on a la question qui se pose toujours, c'est ça va de quand à quand?
Eh bien, c'est le 20e.
C'est le 20e.
Donc, on démarre plutôt quand même après... après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, essentiellement quand même, pour ce qui nous concerne et surtout pour les puces du design. Donc on part des années 50 jusqu'au 20e, fin du 20e. Mais on présente aussi, certains présentent du design contemporain, en série limitée, dont je fais partie d'ailleurs, j'aime ça aussi. Et j'aime faire cohabiter les choses, et souvent il y a un pont, une inspiration, un corollaire entre les deux. Et voilà, c'est ça en fait.
Mais dans une époque qui a quand même tendance à nostalgiser plus vite que son ombre. On le voit aujourd'hui, oui, on voit dans les magazines, on voit dans la musique, on voit un peu partout que déjà les gens ont la nostalgie des années 2000. Je regardais un magazine dernièrement, nos très chères années 90, elles sont quand même pas si loin.
Et peut-être parce que nos années actuelles sont pas si heureuses.
Les créations design qui ont été lancées au début des années, du début du 21e siècle sont déjà du vintage, ou est-ce qu'elles sont dans la matrice contemporaine?
Non, elles sont encore dans le 21e, mais elles sont encore contemporaines.
C'est encore du contemporain.
Dieu merci.
Mais... Ça va vite quand même aujourd'hui. Hein.
Oui, mais je pense que là, c'est aussi un phénomène de société d'aujourd'hui, de la situation économique d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a tendance à se replier sur le passé, surtout les Trente Glorieuses, les périodes qui étaient les Happy Days, les...
Je sais pas, j'y étais pas.
Et le pop art. Comment, vous y étiez pas? Vous n'avez pas connu. Donc vous n'êtes pas nostalgique, en fait, de ce mobilier.
Non, parce que justement, moi, je pense qu'on est d'une génération, justement, je les ai un peu connus quand même, qui ne nostalgisaient pas tellement. Ce que vous dites, c'est un phénomène de société.
Oui.
C'est étonnant d'une génération qui va très vite, qui est poussée vers l'avenir par la technologie, qui a dans le même temps ce besoin d'aller se conforter, de se réconforter sur un passé qu'elle fantasme, qu'elle n'a pas forcément connu.
Sur des valeurs sûres.
C'est surtout ça, c'est je pas crois.
Oui,
je
sais
pas,
ouais.
On est insatisfait de l'offre actuelle et qu'on en a marre d'acheter des meubles qui se ressemblent tous. Et je pense qu'en regardant dans le passé, on arrive à trouver de la diversité et des choses qui ont la patine du temps et qui sont de bonne facture. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va acheter des meubles qui vont durer dans le temps et qui vont se bonifier, contrairement à ce qu'on nous propose aujourd'hui.
C'est
vraiment
une
réaction. C'est une réaction.
Alors, Jean-Sébastien Blanc, vous, Studio 55, c'est une agence parisienne de design global, lancée en 2003. Donc, la direction artistique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez amené de plus au plus du design?
C'est vrai qu'il a fallu s'arrêter sur un terme, mais au-delà de la direction artistique, on a d'abord entamé le chantier de l'identité graphique des puces, avec tous les supports de communication, de la signalétique sur le lieu de la porte de Versailles. Mais on a également pensé la scénographie. Et au-delà de ça, c'est quasiment un commissariat d'exposition, puisque on a voulu faire et on a fait le constat que le design ne se limitait pas au design vintage, et on voulait créer un lieu de rassemblement de la profession. Et je suis heureux d'avoir aujourd'hui des gens qui représentent toutes ces facettes de la profession. Et donc on a voulu faire venir des designers contemporains Et donc on a fait un appel à candidature et en essayant de garder l'esprit des puces. C'est pas l'idée de faire une exposition, mais c'est vraiment ce sont des expo-ventes où tout est à acheter et tout est à vendre.
Alors ça, c'est ce qui reste dans l'esprit des puces originelles et des puces du design. Mais on l'a dit, historiquement, elles étaient dans la rue tout de même. Ces puces du design, c'est ce qui faisait leur force, leur charme, et c'est peut-être pour ça qu'elles sont montées en puissance. Aujourd'hui, cette année, une nouveauté,
c'est que la
rue, voilà
c'est...
dans un centre d'exposition, pas n'importe
dans
lequel,
hall d'exposition.
Dans un hall d'exposition Versailles. Vous parlez de scénographie, ça change tout.
Ça change
pour
tout.
Vous, comment vous allez recréer une ambiance qui donne quand même ce qui faisait son charme, c'est ce côté un peu vivant,
vous avez
pucier,
tout
quoi.
Dit, vous avez tout dit. C'est tout l'enjeu de notre travail, c'est d'essayer de recréer cette atmosphère-là, cette atmosphère populaire, de créer un lieu où on aime y passer du temps, qui devient une véritable destination. Et je pense que quand on est passionné du design, on est capable d'aller à Porte de Versailles, ça reste en plein Paris.
Ça oui.
Historiquement, il y avait le Salon du Meuble à Porte de Versailles, et c'est vrai que les puces grandissent et que 5000 mètres carrés, ça ne se trouve pas n'importe où dans Paris.
Alors sans trop déflorer tout de même ce que sera cette scénographie, vous allez jouer sur quel code pour que justement ça reste un hall d'exposition, comme vous dites, c'est un peu impersonnel. Comment on arrive à faire au-delà de ce que présentent les exposants?
L'idée première, ça a été de pas enfiler les stands les uns derrière les autres. C'est plutôt essayer de faire des surfaces qui sont plus ou moins non définies, avec des stands, avec pas des grandes allées, mais des allées où on va plutôt se perdre, déambuler. Et on a pensé à la scénographie comme un village, comme un grand village, avec une place de village où on aime se rassembler, discuter, échanger autour de toutes ces problématiques-là, entre le vintage, le contemporain. Donc, et on s'est complètement inspiré des ambiances de marché, des tables de marché et des parasols de marché. Et donc, ça sera un esprit joyeux, mais en intérieur.
Les puces, donc on revient vraiment à l'idée de puces. Alors, l'espace contemporain, vous en parliez à l'instant, avec des maisons comme Volta Design, Maorum, Guffram et Moustache. Moustache et Barbe, on pourrait dire maintenant, vous pourriez vous appeler Moustache et Barbe, Stéphane Arnuberger, éditeur de design, vous êtes né, c'est 2009 ?
Absolument,
c'est
ouais.
ça, hein, vous vous êtes lancé sur ce créneau-là, il y avait une effervescence ces années-là, comme ça, autour des nouvelles maisons d'édition.
On était les premiers, dans la jeune génération en tout cas.
Qu'est-ce que vous présentez au plus du design ?
Alors, on va présenter notre collection habituelle. Et aussi quelques prototypes de produits qui existent dans la collection depuis 2009, qui sont dans notre stock depuis 2009, et qu'on va vendre pendant les puces du design.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a une petite vente braderie justement autour des prototypes des grandes maisons.
Prototypes et dessins originaux qui sortent tout droit des studios de designers. Donc beaucoup ont eu de mal à s'en séparer. Ça a une valeur très sentimentale pour les designers, mais je pense que c'est vraiment l'endroit où il faut aller où on peut trouver et vendre ce type de pièces, parce qu'il y a la clientèle qui est capable d'apprécier la qualité.
Mais et après sur les objets, parce que vous passez rapidement comme si tout
notre
le monde connaissait
notre collection habituelle.
Ouais, c'est ça.
Mais encore.
Nous préciser un petit peu, parce que ce qui est intéressant, peut-être que les acheteurs de design vintage ne sont pas forcément acheteurs de design contemporain et connaissent mal. Ou je me trompe, je vois que Pascal Guérin fait l'amour. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que si, les gens qui s'intéressent au design connaissent aussi un peu le design contemporain. Donc nous, c'est vrai que c'est assez inhabituel de nous retrouver dans ce genre de situation commerciale. On vend pas en direct habituellement. Donc là, c'est une occasion aussi de rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Puis notre particularité aussi, c'est d'être profondément ancré dans le contemporain.
Ça s'incarne comment? C'est sur les choix de matière,
c'est sur les choix des designers, des matériaux qu'on utilise, des savoir-faire qui sont disponibles aujourd'hui mais qui n'étaient pas forcément il y a 10 ans. Donc on ancre vraiment notre production dans le contemporain et on n'a aucune nostalgie par rapport à la discipline. Au contraire, on essaye de faire le pas suivant.
Et justement, je vous laisse poser votre question, mais Inga Sampé, Françoise Hambourg, Yona Vautrin, Jean-Baptiste Fasseret, tout ça pour dire que vous êtes une jeune maison d'édition, mais vous travaillez avec les plus grands. Parce que là, c'est la jeune garde quand même.
On travaille avec de grands designers et aussi avec des gens très jeunes qui ont encore presque rien fait.
Qui sortent de l'école.
Et c'est assez agréable en fait de pouvoir œuvrer avec des gens qui sont hyper compétents. Et d'autres qui le sont moins, mais qui ont une fraîcheur que n'ont plus les autres.
Mais à la question que soulevait tout à l'heure Jean-Sébastien en disant que peut-être que les gens allaient vers un design vintage qui remontait à quelques années parce que ça les rassurait, parce qu'il y avait peut-être une technique, une matière, un savoir-faire qui est moins. Comment vous réagissez par rapport à ça? Ça va être intéressant finalement par rapport à ces puces design qui sont très vintage historiquement, de voir la confrontation, sans que ça soit peut-être même l'émulation, entre deux univers.
Oui, alors, enfin, sur le marché du design contemporain, aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons d'édition qui se créent sur des rééditions.
Ça, oui.
Ce qui n'est pas du tout le cas à Opus. Quand on va à Opus, en fait, on vient chercher une pièce qui a été produite dans les années 50 ou dans les années 60 ou au début du siècle, au début du 20e siècle. Et du coup, on achète avec ces objets aussi un morceau de la société qui les a vus apparaître. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Et c'est ce qu'on essaye, nous, de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on décide de développer, de produire et de promouvoir un objet, c'est qu'on pense qu'il a quelque chose à dire sur la société dans laquelle il apparaît, en fait.
Et que dans 20 ans, au plus du design,
probablement. C'est l'idée, c'est d'offrir la possibilité aux gens de collectionner ce qui sera demain, ce qui sera recherché et qui prendra de la valeur. Donc, et pourquoi les choses prennent de la valeur et pourquoi les choses sont recherchées, c'est parce qu'elles ont, tu l'as très bien dit, marqué leur temps, marqué leur époque. Elles ont considéré comme emblématiques de leur société. Et c'est vrai que c'est une vraie leçon d'histoire de discuter avec des marchands et d'apprendre. Ouais. C'est vraiment le chaque détail du meuble nous rappelle à l'époque les outils disponibles, les technologies présentes, les découvertes, les avancées technologiques. C'est l'histoire de notre société qui se présente à travers le design. Et c'est pour ça que nous, ce lieu-là, au-delà d'en faire un lieu marchand, on veut en faire un lieu culturel où vraiment comment on peut se renseigner. On voudrait que les marques contemporaines viennent aussi, même qui rééditent, viennent prendre la parole pour nous raconter des histoires qu'elles ont nouées avec des designers et
il y aura comme ça d'ailleurs de produits. Au sein de, puisque maintenant vous êtes dans un lieu clos, est-ce qu'il y aura des débats, des comme alors, ça peut
oui mais ça
sera objet, il y a quand même tout un corpus tout cérébral où il y a toujours des réflexions, des tables rondes.
Alors nous on a essayé de pas faire ce qui existe déjà, on a voulu essayer de proposer quelque chose de nouveau et ça a été un des et donc on voulait pas faire des débats et des conférences de forme sous un format institutionnel. Donc il y aura des prises de parole sur la place du village, mais
c'est un peu nuit debout.
Voilà, il y aura des débats et des échanges et on pourra s'inscrire, discuter, parler d'un projet voilà, et avec une programmation qui se définira sur le moment.
Au fil du temps, vous parliez de valeur, ça c'est quand même important, parce qu'au Opus, on est quand même sur de la valeur marchande aussi, même si, vous avez raison, c'est aussi toute une culture et des informations qu'il faut apporter. Pascal Guérin, vous qui faites d'abord du design vintage, qui représentez ici le design vintage avec le touch of design, mais qui faites aussi du design contemporain, la question qu'on doit vous poser 50 fois par jour, qu'est-ce qui est plus cher, c'est d'acheter du vintage ou d'acheter du contemporain?
C'est extrêmement variable. Ça dépend de ce qu'on appelle le design contemporain. Si c'est une création d'artistes, de designers contemporains, ça peut être plus cher. Tout dépend parce que le coût de fabrication, en fait, rend énormément en ligne de compte. Donc parfois c'est plutôt le design contemporain qui peut être plus cher et puis aussi il y a une cote, il y a des collectionneurs dans le vintage qui créent des cotes, il y a aussi des objets extraordinaires et exceptionnels qui sont rares et qui donc ont une grande valeur, donc tout est une question d'objets et de à qui on s'adresse. Il y a les collectionneurs, les amateurs, enfin voilà.
Parce que Stéphane Arieu-Berger, vous êtes collectionneur?
Oui.
Justement, au-delà d'être éditeur de design contemporain, absolument. Vous êtes aussi collectionneur. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus et pourquoi?
Ben, en fait, comme pour mon travail, j'essaye de collectionner des objets qui racontent quelque chose sur la société. J'essaye vraiment de trouver des objets qui prennent corps à un moment dans la société et qui n'auraient pas pu prendre corps avant.
Donc c'est ni une période ni un designer particulier.
Non, c'est plutôt des choses qui du coup sont récentes parce que j'achète beaucoup d'objets qui sont des objets contemporains. Je suis pas très intéressé par les objets anciens, mais j'achète des créations contemporaines.
Allez, pour s'en convaincre, il reste une minute avant la pause. Une pièce de votre collection que vous avez acquise dernièrement et qui justement raconterait un peu votre manière vous d'appréhender votre collection.
Eh ben, j'ai acheté un vase de...
Vous dites pas un rasoir, parce que ce serait pas possible.
Non, j'ai acheté un vase d'une designer hollandaise qui s'appelle Vicky Sommers, qui s'appelle Frozen, et qui, en gros, utilise des résines qui permettent de figer des éléments naturels à tout jamais. C'est une résine assez incroyable. Alors, elle s'est basée sur l'histoire d'une averse de gelée en Hollande,
qui avait figé comme ça le paysage.
Qui avait figé le paysage. Et en gros, elle en a fait des vases, des objets destinés à la table, plutôt.
Et donc, on comprend mieux le titre Frozen.
Oui. Vous restez encore un petit peu avec nous. On continue notre balade en avant-première dans les puces du design qui se tiendront du 17 au 20 novembre, porte de Versailles à Paris. Restez avec nous.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et notre luxe de la semaine se passera du 17 au 21 novembre, porte de Versailles, la 35e édition des puces du design. Quelques-uns des exposants de cet événement sont avec nous. Jean-Sébastien Blanc, lui, il est carrément le grand Manitou, directeur de la création de 55 Design Studio, est toujours avec nous. Basile de Gaulle, designer, artisan, fondateur de Maximum. Nous sommes également en compagnie de Pascale Guérin, fondatrice de la galerie online Touch of Design, et Stéphane Arieu-Berger, fondateur de l'éditeur de design moustache. On a parlé déjà pas mal de choses, Jean-Sébastien Blanc, dans ce qui changeait. On a du design vintage, on a du design contemporain et on a des artisans aussi, des designer makers, comme vous les appelez en bon français, sur les 35e puces du design. Pourquoi vous avez voulu faire entrer ces savoir-faire ?
Alors, parce qu'on avait envie tout simplement de faire entrer la jeune scène et d'ouvrir les portes pour ces nouveaux designers. Moi, je les appelle les super-héros du design. Ils créent, ils fabriquent et ils s'éditent. Donc, ce sont des néo-artisans. Avant, il y avait l'artisan qui concevait, qui fabriquait. Ils ont décidé de travailler directement avec la matière.
Parce que, juste petite parenthèse, d'habitude, je me tourne vers vous me dites si je dis une bêtise, Stéphane Arieu-Berger, mais il y a celui qui dessine. Ouais. Il va faire appel à des artisans et après il va faire appel à vous, maison d'édition, pour éditer.
On préfère quand c'est la maison d'édition qui s'occupe de travailler, de chercher les industriels.
En tout cas, pas dans cette ordre-là, mais vous êtes au moins trois.
Oui, c'est ça. On passe une commande à un designer qui dessine. On trouve des gens pour produire leur dessin.
On voit si c'est viable.
On fait des essais, des prototypes. Et puis ensuite, on commercialise les projets.
Voilà. Et donc, ces designer makers, ils font tout.
Voilà, et donc c'est une vraie mouvance qui est encore une fois emblématique de notre société. Et ce qui est génial, c'est que il existe très peu d'endroits et de moments pour leur permettre de diffuser et de rencontrer leur public. Et moi, j'adorais cette idée d'acheter en circuit court, de pouvoir acheter un objet directement à son producteur, et que à la fois ils puissent nous raconter les histoires de leurs objets, leur processus créatif, comment ils en sont arrivés là. Et encore une fois, on est sur des séries ultra limitées. Et j'avais l'image de cet artisan qui vend des mortiers en bois d'olivier sur le marché. Et j'avais envie de recréer cette ambiance-là d'artisans qui proposent leurs produits. Et donc on a ouvert un espace qui s'appelle la rue des designer makers et on a fait une sélection de alors ils sont souvent jeunes, 10 jeunes designers qui travaillent dans cette mouvance-là et c'est une façon de rendre hommage à cette nouvelle scène.
Alors il y en a par exemple qui travaillent la céramique, qui travaillent d'autres matériaux et on a Basile de Gaulle donc avec Maximum. En plus avec vous on consomme local, Ivry-sur-Seine, c'est bien ça. Vous, votre idée, vous cumulez tout, si j'ose dire, tout ce qui fait la tendance actuelle, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est que on parlait du consommer local et en plus vous utilisez des déchets industriels. Vous faites de l'upcycling, on peut dire ça ou ça vous énerve quand vous dites ça ?
Mais ça m'énerve pas du tout. C'est un terme qui est encore pas très approprié. Enfin, on se l'est pas encore beaucoup approprié. La preuve, il est en anglais. Mais oui, on fait de l'upcycling et ce qu'on a apporté à l'upcycling, c'est une dimension industrielle. C'est-à-dire, l'upcycling, c'est un principe qui est vieux comme le monde. Je ramasse une branche par terre, elle a une forme de quelque chose, je vais en fabriquer un arc ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire utiliser tous les atouts de ce qui nous tombe sous la main pour fabriquer. C'est le siège en palette, etc. Et nous, on l'apporte au stade de l'industrie en travaillant directement avec des industriels et en recensant tous les déchets qui sont produits en France de façon à avoir une multitude d'éléments qui nous permettent de fabriquer des meubles. Et il se trouve que c'est une matière qui est très, très disponible, plus encore que la matière première classique, celle qu'on achèterait. On sait bien que les déchets, c'est un immense problème. Et du coup, pour nous, ça devient une immense solution.
Alors, très concrètement, Basile, par exemple, vous récupérez des échafaudages, des bouts d'échafaudage, c'est ça, c'est un des
éléments.
Exactement,
par exemple.
Et vous en faites quoi ?
Les tubulaires d'échafaudage.
On récupère les tubulaires d'échafaudage d'une certaine marque, de chez Pletac, Parce qu'ils sont très beaux, ils ont des rosaces, ils ont tout un graphisme. Et en fait, bon, ce sont des tubulaires qui ont été cassés pendant les chantiers, qui est quelque chose qui arrive très souvent. Et donc, on est en partenariat avec l'ETAC pour récupérer certains éléments les plus récurrents. Et on fabrique une table avec, en utilisant toute l'ingénierie et toute la technologie qui est contenue dans le système de clavette et d'attache de l'échafaudage. C'est facile.
C'est vraiment la deuxième vie, quoi.
C'est la deuxième vie.
De la matière, même pas de l'objet, puisque vous réinventez un objet. Deuxième vie de la matière.
C'est la deuxième vie de l'objet lui-même, carrément. Plus que de la matière, c'est pas le morceau de métal qui nous intéresse.
Mais d'avoir une deuxième utilité, en tout cas, une autre utilité.
Mais c'est la même, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va prendre un élément qui est fait pour s'attacher sur un autre, mais on va simplement récupérer toute cette ingénierie-là. Donc, en quelque sorte, notre façon de dessiner vise à faire comme si Pletac avait produit ses rosaces et ses clavettes pour nous. C'est-à-dire qu'on s'approprie vraiment toute la forme. Et on a donc assez peu d'opérations à faire pour une grande technicité. Il y a, je ne sais pas combien de soudures sur cette table, on n'a pas de poste à souder. On en a un, mais on s'en sert pas.
Allez, une deuxième pièce, c'est assez passionnant votre histoire. Une deuxième pièce là que vous allez présenter au Puce du Design.
Alors au Puce du Design, vous disiez tout à l'heure, c'est du Made in Ivry. En l'occurrence, on va avoir la chance de faire. Je remercie les 5-5 designers de nous avoir invités, de fabriquer directement sur le salon notre fauteuil Graven, qui est donc un fauteuil en plastique. Donc ce sera du Made in Porte de Versailles. Et on a tout un principe.
Il y aura le salon Made in France à côté.
Ouais, voilà. On a tout un principe que je peux détailler, mais juste pour prédire ce quoi ça va ressembler. On amène une grosse machine qui est une extrudeuse et qui nous permet de faire fondre du plastique. Et à partir de ce plastique fondu, on fabrique des coques de fauteuils, sachant que les pieds sont produits en amont. Et à partir de là, on obtient un fauteuil qui est le fauteuil Graven, qui est notre modèle depuis un an. Et il se trouve qu'on aura donc toute une série de pièces qui sont donc produites en série, mais qui seront que des pièces uniques, puisqu'on utilise des poudres colorées. Donc je peux raconter l'histoire.
Allez-y.
On travaille donc en partenariat avec une super boîte qui s'appelle Schulman, que personne ne connaît parce qu'ils travaillent beaucoup en B2B. Et cette boîte, ils colorent, leur travail, c'est de colorer des poudres de polyéthylène à destination d'autres industriels. On a fait deux objets chez eux, dont celui-ci. Et alors, en visitant leurs usines, ils ont été très ouverts d'esprit, ils nous ont fait arpenter leur site de production. On s'est rendu compte qu'il y avait toute une production de plastique, donc eux, ils vendent une poudre qui est colorée, toute une production de plastique qui partait directement à la poubelle ou en recyclage. Ça peut être loin, le recyclage, ça peut être à l'étranger, c'est vraiment pas un truc idéal. Simplement parce que d'un client à l'autre, c'est pas la même couleur, et la couleur du client précédent pollue un peu dans les tuyaux le début des poudres du client suivant. Et ce qu'on appelle le début à ces échelles-là, c'est 500 kilos ou c'est 200 kilos, ça dépend un peu de la couleur. Donc à chaque production, il y a 150-200 kilos qui sont mis de côté, qui partent en recyclage, en fait en destruction. On va retirer toute cette couleur, etc. Et donc à la fin de la journée, on a 500 kilos de poudre parfaitement utilisable. Il ne manque plus que de l'appareillage pour pouvoir la fondre.
Voilà, l'histoire assez dingue. On vient de rentrer dans une industrie de plasturgie grâce à vous, alors qu'on était parti au Puce du Design, Porte de Versailles. Mais c'est ce que vous avez voulu faire.
Les Puces du Design vont se transformer en site de production.
Mais c'est ça qui est génial.
Il y aura l'occasion non seulement d'acheter directement au producteur, mais en plus sorti tout chaud de la machine. C'est l'équivalent du pain au chocolat qui sort du four.
Et du coup, Pascal Guérin, vous continuez, vous êtes là coûte que coûte. Il y a tout aussi ce design vintage. Et en tant A Touch of Design, c'est une galerie online. Donc justement, ça veut dire qu'aujourd'hui, même quand on vend, ce qui se passe aussi pour toutes les nouvelles marques sur Internet, même si on vend sur Internet, c'est intéressant pour vous d'être au Puce du Design parce que les gens ont besoin quand même de toucher, d'avoir cette approche culturelle.
Bien sûr, c'est d'autant plus intéressant. Ce qui est important, c'est d'avoir une galerie online. Pour des tas de raisons qui sont des raisons de coût, ce qui nous permet de revendre à des prix nettement plus raisonnables que si on avait une galerie, qu'on peut chiner davantage, bouger davantage, qu'on ait une grande disponibilité parce qu'on est joignable n'importe quand. Il n'y a pas de samedi, dimanche fermé. Non, mais simplement par mail et je réponds tout de suite. Qu'on peut créer une complicité et une vraie proximité avec l'acheteur et même une relation de conseil parce qu'on échange, on se rencontre, ils viennent voir l'objet ou s'ils ne le voient pas, en tous les cas, on fait un gros effort sur les photos, sur le détail, sur la description. Et en fait, c'est une nouvelle façon de travailler. Mais il faut des moments de visibilité tout de même. Et ces moments, c'est... Soit les puces du design.
C'est un vrai sujet quand même, parce que c'est vrai que l'acte d'achat a plutôt tendance à se faire via des plateformes et des sites aujourd'hui, mais
oui, mais c'est pas tout à fait pareil.
Il y a une prise de contact, je pense, importante dans un premier temps, mais Moi, je pense que quand on achète des objets de valeur comme ça, qu'on est amoureux des objets, on a besoin à un moment donné de toucher,
mais
de
diriger, question, de soulever, de regarder la chaise de son. En fait, je ne suis pas du tout concurrent. Ouais. Enfin, il y a deux choses. Il y a les plateformes de vente comme Brocante, etc., qui sont des gens qui proposent des objets, mais vous n'êtes pas en rapport quand vous êtes acheteur avec le vendeur, c'est-à-dire avec le marchand. Alors que là, vous êtes en rapport avec le marchand qui vous informe, vous donne l'histoire de l'objet, qui vous raconte comment on peut créer, comment à l'époque l'objet a été créé.
Tu disais Jean-Sébastien, c'est quand même, on est quand même dans un objet inanimé. Avez-vous donc une âme? Ils en ont une. Et parfois, à un moment donné, tu as quand même envie de les voir, de les toucher. C'est-à-dire toute la magie des huissiers.
C'est qu'on les touchait.
C'est un peu plus difficile de l'estimer, mais c'est pas un reproche, comme vous dites. C'est quelque chose de complémentaire. Sur le online, à un moment donné, on a beau me raconter, le cuir, tu le touches pas, tu ne le sens pas, tu ne le vois pas, ce qui n'est pas grave.
Mais à un moment donné, le confort, c'est difficile.
Et le confort, ça reste un petit peu difficile.
La différence, c'est qu'à un moment donné, quand on est à l'acte d'achat, l'acheteur peut venir voir l'objet.
Ah mais moi, comme, de toute façon,
comme un vrai galeriste finalement, comme un galeriste. C'est ce juste proposer.
Voilà, on offre un service
mais
différent.
De toute façon, vous êtes partout, vous êtes online, au plus du design. Il y a pas de problème.
Non, si non, je pense qu'aujourd'hui, c'est important parce que je pense que ça va être de plus en plus comme ça. Et c'est vrai pour les galeries d'art, c'est vrai pour énormément d'activités autour de l'art maintenant.
Et vous savez, le mieux, comme de toute façon, c'est terminé, vous irez au plus du design du 17 au 20 novembre, porte de Versailles, et vous rencontrerez, si vous avez de la chance, Stéphane Arieux-Berger, fondateur de l'éditeur de design Moustache, et tous les objets qu'il présente. Pascale Guérin également, fondatrice de la galerie online A Touch of Design. Basile De Gaulle pour Maximum, qui sera en pleine fabrication de fauteuils.
Chaussure de sécurité.
Absolument. Il faut suivre l'odeur de paraffine.
Jean-Sébastien Blanc qui arpentera toutes les allées de ces puces indoor. Hein. C'est vraiment comme ça que ça va se passer du 5-5 Design Studio. Merci beaucoup.
On a
beaucoup.
Prévu des ventilateurs pour recréer une petite ambiance.
Ah, non, c'est pas tout. On reviendra voir. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre. Rendez-vous donc, Porte
merci
de Versailles du 17 au 20 novembre. Attention, Goodlux Paris, c'est pas tout à fait terminé. Le livre de la semaine dans quelques secondes.
Goodlux Paris, l'édition du week-end. Le livre de la semaine.
Et le livre de la semaine, on va se pencher un peu sur l'actualité. Mais d'abord, je voudrais saluer notre chroniqueur du jour, Christopher Siminelli. Bonjour.
Bonjour Karine.
Et vous allez nous parler high-tech dans quelques instants avec de magnifiques objets. Mais d'abord, c'était un petit peu les élections américaines cette semaine.
Ah bon ?
Et donc, je voulais vous parler d'un Américain, pas n'importe lequel, hein, Tommy Hilfiger, donc grand créateur de mode. Il a écrit son livre de mémoire, My American Dreamer, My Life in Fashion and Business.
C'est ça
qu'il raconte. Il raconte tout ça. Il raconte le début de sa passion, comment il a créé sa boîte et comment aujourd'hui il est arrivé, après quelques histoires et quelques obstacles, à un empire de quelques milliards de dollars. C'est vraiment tous ses moments de doute, ses succès, sa famille qui lui a permis de construire cette marque de renommée mondiale. Il a 65 ans. Aujourd'hui, il vient de dévoiler ce bouquin en grande pompe le 1er novembre, comme ils savent le faire les Américains. Et alors, il y a notamment un récit délicieux. C'est encore en américain pour l'instant, parce que c'est avec Peter Knobler qu'il a écrit. Donc, on n'a pas la version française encore. C'est tout beau, tout chaud. C'est en vente dans la boutique Tommy Hilfiger Capucine et sur tommy.com, tout simplement. Mais il y a un petit moment délicieux que vous retrouverez sur le net, où il raconte sa visite à Neverland chez Michael Jackson. Ça vaut son pesant de cacahuètes, si je veux dire.
Bon, bien sûr, j'imagine que c'est une agiographie, hein, il se raconte lui-même. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est quand même dit dans le titre, c'est que c'est à la fois un bouquin qui pourra intéresser les gens qui aiment la mode, et comment. Mais c'est surtout un bouquin de business, quoi.
Ah ben c'est ça.
Ça raconte véritablement, ça. C'est presque.
C'est American Dreamer, le rêve américain.
C'est exactement ça, il raconte comment il a construit sa marque. Et ça, c'est vraiment plus un manuel de management et de business qu'une grande histoire de mode. C'est intéressant
chez
pour ça.
Ballantine Books, allez, la chronique high-tech.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Tech de Luxe.
Tech de Luxe, Christopher, vous nous offrez un petit thé ?
Un petit thé, effectivement. Alors, je pense qu'il y a plein d'adorateurs de thé ici qui sont très minutieux sur le goût, le temps de cuisson, etc. Je pense que cet objet, il va vraiment leur plaire. Ça s'appelle Fortitude T42TEA. Donc, à quoi ça sert ? Vous le connectez à votre smartphone, vous avez une appli associée, donc voilà, il y a du Bluetooth à l'intérieur. Vous le plongez dans l'eau de votre thé et ça vous donne le temps de cuisson idéal en fonction du type de thé que vous voulez.
Le temps d'infusion, vous voulez dire.
Alors déjà, le temps de la température idéale.
De l'eau.
Première étape, la température idéale de l'eau, parce que à chaque type de thé correspond une température idéale. Ensuite, une fois que l'eau est à la bonne température, vous versez la quantité optimale de thé indiquée par l'application et vous replongez encore le cube dans votre théière qui vous donne le temps d'infusion idéale qui peut être de 7 à 12 minutes.
C'est vraiment ensuite, pour les théophiles ou maniaques.
On n'est plus qu'à consommer.
Parce que quand même, le petit cube en plastique dans ma tasse de thé, je ne suis pas
exactement.
Sûr.
Exactement. Regardez, c'est plutôt joli. Ça résiste évidemment à la chaleur. Et c'est livré. Vous pouvez avoir des boîtes à thé assorties et un petit présentoir. Ouais, c'est plutôt joli dans la cuisine. Ça coûte 45 euros. Sera disponible en février 2017.
Ah, j'allais dire pour les cadeaux de Noël, lancez râpé. On attendra un petit peu. 42 tea. On continue dans le bien-être.
Exactement. C'est la chronique bien-être tech. Dans la même veine, regardez, design, vous pourrez prendre les deux. Ce sera bien assorti. C'est l'aromacare. Qu'est-ce que c'est? C'est un diffuseur d'huiles essentielles connectées. Et regardez, ça va vous rappeler, avec un concept qui va vous rappeler quelque chose, des pastilles comme les Nespresso. Vous achetez des capsules, pardon. Les capsules coûtent 6 euros environ. Vous les mettez ici. Vous avez deux emplacements. On peut imaginer un emplacement pour le réveil, un emplacement
ça ressemble à une petite enceinte.
Ça ressemble à une petite enceinte, effectivement. Vous le connectez, encore une fois, à une application mobile. Vous pouvez programmer des horaires de diffusion et vous pouvez aller sur le site internet si vous avez des problèmes de dos, si vous avez des problèmes d'insomnie, etc. Il y a plein d'huiles essentielles qui adressent des problématiques spécifiques.
Ouais, et très rapidement, un truc pour les mecs, un truc Porsche ?
Et un truc Porsche, regardez, c'est Huawei. On a dit que c'est l'un des fabricants qui apporte plus de soin au design. Et bien, avec ce Porsche design, ça confirme ce qu'on dit. Regardez, c'est un très beau smartphone avec des très haut de gamme, écran quad HD, 6 gigas de mémoire vive. Allez, on est un peu geek. Là, 256 gigas de stockage, tous les raffinements. 1395 euros avec un smartphone très très haut de gamme qui sera disponible et en exclusivité dans les boutiques Porsche Design. Et pour la petite anecdote, quand ils l'ont présenté, ils sont venus avec une Porsche 911 sur scène. C'était assez impressionnant.
Ouais, c'est la marque chinoise, ça. Ouais. Et dont vous nous aviez parlé il y a quelques temps, qui s'était associé, c'est eux qui s'étaient associés avec Leica.
Exactement.
Donc une marque qu'on n'attendait pas, qui aujourd'hui
est en train de ramener les plus belles
choses. Surtout, ils font vraiment de très très belles choses. C'est pour ça qu'on en parle ici, parce qu'on aime bien.
Merci Christopher Siminelli, 01net. Allez, l'agenda. Une minute, juste une minute pour l'agenda.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. L'agenda.
Une vente.
Bon, alors ça sera le 19 novembre prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. L'exposition commencera le 16, donc jusqu'au 18 novembre. La vente à 11h chez Arcueil, à le 19 novembre, l'univers des créateurs de Tintin. On est en pleine RG Mania. Et c'est vrai qu'on va disperser plusieurs pièces. Alors bien sûr, des planches originales, des BD signées RG, mais aussi toute une série de pièces, des maquettes, des miniatures, des sculptures en résine dédiées à Tintin. Parce qu'on a ce sentiment tout de même que la tintinophilie est en train de verser du côté des éléments de style. Il y a des pièces assez uniques.
Ce sera le 19 novembre, Arcurial, 11h pour Tintin. Et moi, je vous offre pour terminer le guide Michelin de 1900 à nos jours. 108 guides Michelin aux enchères chez Christie's Paris le 5 décembre. Emmanuel, la totale entre 25 et 35 000 euros.
J'en ai plein chez moi.
Non, mais sauf que là, on vous vend la totale.
Ça fait partie du lot de
cette vente. Livres et manuscrits, 108. Guide paru entre 1900 et 2016.
La seule personne que je connaisse qui est la collection totale, c'était Ducasse. Donc on va pouvoir être au niveau de Ducasse. Je vais y aller, moi.
En attendant, c'est terminé. Good Luxe pour aujourd'hui. On se retrouve le week-end prochain, même heure, même endroit, avec vous, Emmanuel, et dès lundi, en direct à 14h sur BFM
avec
Business.
Avec vous toute seule, Karine.
À bientôt.
BFM Business, Good Luxe Paris, l'édition du week-end.